journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec les premières réquisitions à l'encontre des 14 accusés jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris au procès des attentats de janvier 2015.
Dans votre journal également, comment désamorcer la crise avec les policiers?
Et en particulier après ses propos sur les contrôles aux faciès qui avaient profondément choqué et mis en colère toute la profession. Emmanuel Macron convoquera au début de l'année prochaine un Grenelle sur la sécurité. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Fabien Jobard, sociologue et directeur de recherche au CNRS.
Toujours en France. Les élèves de CM1 et de 4e, décidément mauvais en mathématiques et en sciences.
Oui, c'est ce qui ressort de la dernière étude internationale Teams publiée ce matin. À l'étranger, nous irons tout d'abord au Royaume-Uni qui a commencé sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Et puis nous dresserons le portrait de la journaliste russe Elena Milashina, prix Reporters sans frontières 2020 de la liberté de la presse. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Pandémie et démocratie, quelle place pour le peuple? Nous recevons la théoricienne du populisme de gauche, celle qui a influencé des mouvements comme Podemos en Espagne, la philosophe belge installée à Londres, si européenne. Chantal Mouffe sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Véritable rendez-vous avec l'histoire, le réquisitoire à l'encontre des 14 accusés jugés depuis plus de 3 mois devant la cour d'assises spéciale de Paris pour leur soutien présumé aux frères Kouachi et à Mehdi Koulibaly résonne déjà comme l'aboutissement d'un procès inédit aussi marquant que chaotique. Près de 6 ans après le trauma des attentats de janvier 2015, le parquet national antiterroriste a requis ce matin des peines allant de 5 ans d'emprisonnement pour les moins impliqués d'entre eux jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, en particulier pour l'un des grands absents en réalité à ce procès, Mohamed Belhoussine, considéré comme le mentor du tueur de l'hypercachère et présumé mort en Syrie. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Alors ce matin, l'accusation s'est en particulier longuement attardée sur le cas d'Ali Riza Polat, en l'occurrence le principal accusé présent lui au procès, et surtout le seul, Florence, poursuivi pour complicité, ce qui aura permis donc à l'accusation de réclamer à son encontre la réclusion à perpétuité.
Oui, réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour celui que l'accusation décrit comme le pivot des préparatifs, la pièce maîtresse au plus près du réacteur. Il a agi de manière transversale sur le double volet des attentats commis par les frères Kouachi et Koulibaly, insiste Julie Holvec, l'une des 2 avocats généraux. Avant elle, son collègue Jean-Michel Bourlès a détaillé point par point les éléments à charge. Sa présence permanente auprès du tueur de l'hypercachère les jours précédant la tuerie et cette liste manuscrite d'explosifs, de détonateurs, de munitions, 500 balles de Kalachnikov, 100 de 9 mm, autant de munitions, ce n'est pas pour un braquage, c'est pour un carnage. À l'heure de préciser le quantum de ces réquisitions, Julie Holvec s'interroge à haute voix, quelle doit être la peine requise pour un complice par rapport à l'auteur des faits? Sa réponse est claire, ferme, la perpétuité prononcée par ailleurs ne rend pas le complice inéligible à cette peine, réclusion criminelle à perpétuité. Était requise, donc assortie de 22 ans de sûreté. Je sais, conclut-elle en s'adressant à la cour, que votre plume ne tremblera pas.
Voici donc pour le principal accusé présent au procès. Qu'en est-il, Florence, pour les autres?
Alors on peut distinguer 3 groupes différents. D'abord les absents, les frères Belhoussine, partis en Syrie avec Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Koulibaly à la veille des attentats. Réclusion criminelle à perpétuité, vous l'avez dit, requise pour Mohamed Belhoussine, 20 ans pour son frère et 30 ans pour Ayad Boumediene, 26 ans à l'époque des faits, la princesse de l'EI devenue un instrument de propagande, lance l'avocate général. À l'autre bout de la chaîne, 2 hommes pour qui l'accusation ne retient pas l'association de malfaiteurs. Terroriste, mais seulement criminel. 5 et 7 ans de prison requis contre eux et entre les deux, 18 et 20 ans de réclusion assortis d'une période de sûreté des 2/3 demandée pour Willy Prévost et Michael Nézard, pasteur alouatique, 2 proches d'Amédi Koulibaly dans le spectre haut de l'implication et de la dangerosité. Des peines de 13 à 18 ans requises contre les membres de la filière belgo-ardennaise dont l'activité de garagiste n'est pour le parquet national antiterroriste qu'une couverture à leurs activités délictuelle, en l'occurrence la fourniture d'armes. Aucun n'a bronché à l'énoncé des réquisitions.
Merci Florence Sturm, en direct du tribunal de Paris, ainsi qu'à Arthur Dumont pour les moyens techniques. Au lendemain des fermes dénégations de Nicolas Sarkozy, premier président de la Ve République, à comparaître devant un tribunal, l'accusation prendra elle aussi ses réquisitions aujourd'hui. L'ex-chef de l'État, jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, en cours 10 années de prison et 1 million d'euros d'amende. Idem pour ses deux co-prévenus, l'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Le verdict est attendu jeudi soir. En revanche, Nicolas Sarkozy n'en aura toujours pas fini avec la justice, puisqu'en mars prochain, il devra répondre cette fois-ci d'accusations de financement illégal de sa campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire dite Big Malion. Et puis l'ancien chef de l'État aura très probablement encore une autre occasion de proclamer son innocence après sa mise en examen pour le présumé financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. En pleine polémique sur les violences policières, comment améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre tout en consolidant un lien de confiance à bien des égards distendu avec les Français, tout particulièrement après le tabassage de Michel Zecler. On l'a appris ce matin, Emmanuel Macron a décidé la tenue à partir du mois de janvier d'un Beauvau de la sécurité. Un rendez-vous qui devra s'appuyer sur les 7 chantiers de réforme déjà présentés fin novembre par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ou quand face à la colère des policiers, le chef de l'État a donc décidé de reprendre personnellement en main ce dossier. Une manière aussi, sans doute, de déminer une situation explosive après les propos vendredi dernier du président, laissant entendre que les contrôles aux faciès étaient une réalité, ce qui n'avait pas manqué, Sophie Delpont, d'attiser la foudre des policiers.
Oui, c'est une opération déminage pour tenter d'apaiser la colère des syndicats de policiers et contrer les attaques de la droite depuis vendredi, accusant le chef de l'État de lâcher les forces de l'ordre. Vendredi, le président de la République avait déclaré « Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème et c'est insoutenable », selon les mots du président de la République. Emmanuel Macron annonce alors la création, à partir de janvier, d'une plateforme nationale de signalement sur les discriminations en raison des origines ou de la couleur de peau lors de contrôles de police. Dans le courrier adressé ce matin au syndicat de policiers Unité SGP Police FO, Emmanuel Macron annonce cette fois le Beauvau de la sécurité comme une déclinaison des Grenelles successifs. Les consultations à partir de janvier réunissant représentants des forces de l'ordre, élus et citoyens. Le chef de l'État évoque les 7 chantiers à ouvrir, la formation des policiers, leur encadrement, les conditions matérielles d'exercice de leur mission, la question de la captation vidéo, la mission des inspections, les effectifs et le lien entre la police et la population. Les réactions politiques sont circonspectes ce matin, y compris à droite. L'eurodéputée LR Nadine Morano y a vu une tentative du chef de l'État d'expier sa faute après ses déclarations sur Brut. Le député LR Éric Ciotti déclare lui attendre des actes, pas seulement des palabres, dans un contexte explosif.
Et pour continuer d'évoquer cette question, invité de la rédaction aujourd'hui, Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche au CNRS, par ailleurs co-auteur de « Police, questions sensibles » publié aux presses universitaires de France, mais aussi « Politique du désordre » paru lui au Seuil, qui nous avait d'ailleurs permis de vous entendre dans la grande table d'Olivia Gesbert. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors ce Beauvau de la sécurité est notamment destiné, nous dit-on, à consolider le lien de confiance entre les Français et les forces de l'ordre. Et pourtant, il y a encore quelques jours à peine, le ministre de l'Intérieur assurait qu'il n'y avait pas de divorce entre la police et la population. Que faut-il en déduire? Est-ce que, contrairement à ce que semble penser Gérald Darmanin, l'exécutif considère, lui, qu'il y a bien et bien un problème de confiance entre les forces de l'ordre d'un côté et les citoyens de l'autre?
Je dirais que la prise de conscience de ce problème, elle remonte au minimum à janvier-février 2020, c'est-à-dire il y a un an, lorsque les images de la mort de Cédric Chouviat, ajoutées aux images du croche-patte déjà, lors d'un mouvement, lors d'une manifestation gilet jaune à l'encontre d'une manifestante, avaient été diffusées et avaient provoqué un grand émoi parmi la population et puis avait amené le président de la République à évoquer la question de l'étouffement, la question des violences policières. Le ministre de l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner également. Donc effectivement, cela fait à peu près un an que le président Emmanuel Macron demande à ses ministres de l'Intérieur successifs de lui faire des propositions pour essayer de renouer, de faire en sorte que les forces de police renouent un lien de confiance avec la population.
S'agissant de ce lien de confiance, justement, en acceptant lors de son interview aux médias bruts, c'était vendredi, de parler de violences policières, mais aussi en reconnaissant l'existence de contrôles aux faciès, Emmanuel Macron a-t-il pris le risque, selon vous, d'instaurer un climat de défiance entre la police et l'exécutif, peut-être même davantage d'ailleurs contre la police et les citoyens ?
Oui, effectivement. En fait, il y a un jeu à trois qui se joue. Il y a l'institution policière et en particulier les organisations professionnelles, c'est-à-dire les syndicats de police majoritaires. Il y a la population telle qu'elle perçoit la police et qu'elle peut éventuellement travailler avec elle sur tout un ensemble de choses. Et puis, il y a le politique. Et là, c'est clair que nous payons, et Emmanuel Macron, d'une certaine manière, paye 20 ans d'instrumentalisation de la police par les ministres de l'Intérieur successifs, qui bénéficient en France d'avoir une police centralisée, qu'ils utilisent au service de leur propre carrière politique. Ce faisant, ils donnent un poids très fort à la police, ils autonomisent la police et aujourd'hui, le politique ne peut plus formuler de critiques à l'égard de la police, car immédiatement les syndicats de police qui ont aidé les ministres de l'Intérieur dans leur carrière politique successive se rappellent au bon souvenir du politique en disant attention, la maison police, c'est nous qui devons la gouverner et pas le politique. Donc vous voyez, c'est un enjeu en fait crucial. C'est un moment crucial que l'on vit en ce moment où le gouvernement, le politique, essaye de restaurer son autorité sur la maison police.
Parmi les chantiers à ouvrir lors de ce Beauvau, donc Emmanuel Macron évoque la formation des policiers. C'est une question qui revient très régulièrement, mais qui se confronte aussi à des problématiques, les effectifs, les manques de moyens humains. Est-ce que c'est un chantier qui peut aboutir ou bien est-il d'ores et déjà voué à l'échec ?
Ah, il peut aboutir si on met de l'argent et de l'imagination sur la table. De l'argent parce que la formation, ça suppose un budget. Ça veut dire que vous allez prendre des effectifs qui logiquement sont dans les commissariats, sont dans la rue, si on veut. Vous allez les ôter de leur mission de service de leur mission de sécurité publique, et puis vous allez les retenir en formation. Donc là, il y a deux doctrines qui s'affrontent. Le politique veut du bleu dans la rue, hein, comme on dit souvent, il veut des policiers sur le terrain, et en même temps, il va falloir les mettre en centre de formation pour leur formation continue. Ou retarder leur prise de service, leur entrée en fonction lorsqu'ils sont en formation initiale. Donc c'est pour ça que ça veut dire aussi non seulement des budgets, mais de l'imagination. Est-ce que véritablement on forme des policiers pour qu'ils soient massivement affectés à des missions de sécurité publique pour, je dirais, mettre du bleu dans la rue? Est-ce qu'il ne faut pas travailler à ce que les policiers fassent plus d'investigations, fassent plus de travail de long terme et donc réinventer à cette occasion une bonne partie du métier policier?
Une dernière question en quelques mots, s'il vous plaît, Monsieur Jobard. Vendredi dernier, trois décrets ont été publiés au Journal officiel pour permettre de recueillir de nouvelles données sur les individus considérés comme dangereux pour la sécurité publique. Dans ces fichiers, donc à disposition de certains services de police, de gendarmerie, on pourra voir figurer notamment les opinions politiques, les convictions religieuses, mais aussi les comportements, les habitudes de vie. Et tout cela viserait à régulariser certaines pratiques. Dès lors, on comprend qu'il s'agit en réalité donc de légaliser finalement ce qui se faisait de manière illégale. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à s'inquiéter ?
J'ai été surpris effectivement de constater la publication de ces décrets qui rappellent des tentatives antérieures, le décret Edwige et autres. Je pense qu'ils seront portés à la connaissance du juge administratif qui jugera de leur légalité. Mais c'est vrai qu'en matière de police, bien souvent dans notre histoire récente, on légalise ce qui relève déjà de la pratique et Et c'est tout à fait déplorable.
Merci Fabien Jobard, sociologue, je le rappelle, directeur de recherche au CNRS, d'avoir répondu à notre invitation.
Et le titre de votre essai, enquête sociologique, coécrit avec Olivier Filliol, c'est « Politique du désordre », politique au pluriel qui vient de paraître. Au seuil, la question de nos libertés, Thomas, en tension avec celle de notre sécurité, elle sera aussi au cœur de notre entretien à suivre avec la philosophe Chantal Mouffe, Pandémie et démocratie, quelle place pour le peuple, on en parle dans une dizaine de minutes. Pour l'heure France Culture, il est 12h45, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Comme une équation a priori insoluble, comment un pays, en l'occurrence la France, peut-elle à la fois se placer en tête dans le classement des meilleures écoles de commerce européennes et dans le même temps être relégué au fond de la classe sur le banc des mauvais élèves s'agissant du niveau de ses écoliers en maths et en sciences. Quoi qu'il en soit, et peu de temps donc après que le prestigieux quotidien britannique Financial Times eut couronné l'Hexagone dans son palmarès 2020 pour la qualité de ses établissements supérieurs, voilà qu'une étude comparative internationale publiée ce matin nous apprend que la France aurait du souci à se faire pour ses élèves de CM1 et de 4e. Sans compter, Hakim Kasmi, que cette évaluation réalisée l'an dernier sur un échantillon de 4000 élèves en France donne lieu à un bulletin en tout point aussi médiocre que la précédente étude Teams réalisée 4 ans plus tôt.
Les résultats sont alarmants puisqu'en mathématiques, les élèves de CM1 ont un niveau inférieur de 40 points par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Idem en sciences, ce qui nous classe parmi les derniers avec le Chili. Même constat pour les élèves de 4e qui étaient également évalués par Teams. En mathématiques, la France est encore en retrait avec 483 points quand la moyenne de l'Union européenne et de l'OCDE est de 511 points. Une chute qui a des conséquences puisqu'aujourd'hui un élève qui est en 4e a le niveau de 5e. Pour inverser la courbe, le ministère de l'Éducation compte donc sur la formation continue, d'autant qu'une grande partie des professeurs des écoles sont diplômés en sciences humaines. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire.
Il est vrai que quand ils arrivent en master, ces jeunes étudiants, souvent, ont une certaine distance par rapport aux mathématiques. La majorité d'entre eux n'a pas fait depuis le lycée. Et donc, ils n'ont pas la même aisance. Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que, malgré tout, il y a des questions de pratique. Et puis, il y a aussi des questions de niveau. C'est-à-dire qu'un professeur des écoles, par définition, des classes de niveau différentes selon les années. Et donc, s'il n'a pas la possibilité régulièrement d'entretenir ces pratiques pédagogiques autour des mathématiques entre le CP, le CE1, le CM1, le CM2, c'est par nature pas les mêmes attentes et pas les mêmes approches en termes pédagogiques. Et donc, il est très important pour lui de pouvoir bénéficier d'une formation continue qui justement lui permette d'adapter ses pratiques finalement aux différents niveaux qu'il a à connaître et puis simplement les actualiser et de les partager avec ses collègues pour en tirer le meilleur.
D'ici 2022, ce sont donc 40 000 enseignants qui devraient bénéficier d'une formation continue en sciences et en mathématiques.
Y aura-t-il des fêtes de famille à Noël ? Hier soir, le directeur général de la Santé a prévenu que la France était encore très loin de l'objectif de passer sous la barre des 5000 contaminations quotidiennes fixées par le gouvernement pour lever les restrictions de déplacement à partir du 15 décembre. Jérôme Salomon dit craindre un rebond épidémique. La situation reste difficile, avait lui-même concédé un peu plus tôt le Premier ministre Jean Castex, tout en prévenant qu'il fallait réfléchir à comment déconfiner. Faut-il s'attendre dès lors à une remise en cause de la nouvelle étape prévue le 15 décembre ? D'ores et déjà, la réouverture des théâtres, des musées, des cinémas semble sur la sellette. Et puis l'autre question majeure qui reste là aussi sans suspens concerne évidemment les vacances de Noël. Le gouvernement juge prématuré de s'inquiéter à ce stade. S'agit-il d'un tournant décisif depuis ce matin et moins d'un an après l'émergence du Covid-19? Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à lancer un programme national de vaccination. Alors aussitôt, les officiels britanniques ont tenu à profiter de cette campagne historique pour célébrer le début de la fin de la pandémie, même si en l'occurrence elle continue de nourrir la méfiance de toujours à l'égard des vaccins. Richard Place, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres, alors précisons que les premières injections sont administrées à des personnes très ciblées, sans compter, Richard, que les doses seront livrées au compte-gouttes.
Oui, et notamment à cause du Brexit, il y a des doutes, des incertitudes, puisqu'en début d'année prochaine, on redoute ici des embouteillages monstres. Plusieurs milliers de camions, les prévisions les plus alarmistes parlent de 7000 véhicules par choc contre par choc sur l'autoroute qui remonte des ports de la Manche, Douvres et Folkestone. Tout simplement parce qu'avec le Brexit, il va y avoir des contrôles douaniers. C'est nouveau, ça va prendre du temps et donc créer des bouchons. Et c'est exactement le chemin qu'empruntent actuellement les poids lourds qui livrent ce vaccin. Impossible qu'il soit bloqué des heures, puisque le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés, il ne peut rester que 5 jours dans un réfrigérateur normal. Et il faut limiter les temps de transport, car cette préparation est fragile, sachant qu'elle arrive de Belgique, c'est là qu'elle est fabriquée. Il y a donc aujourd'hui 50 centres hospitaliers dans le pays qui ont reçu les doses, c'est là qu'elles seront administrées. C'est aussi pour cette raison que les pensionnaires des maisons de retraite, qui figurent parmi les personnes prioritaires, ne recevront pas le vaccin immédiatement. Il faut auparavant trouver le moyen de leur apporter dans de bonnes conditions. Le gouvernement a déjà annoncé que les doses de vaccin étaient une marchandise prioritaire et si besoin, en cas d'embouteillage record à cause du Brexit, il fera appel à la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, pour effectuer les livraisons.
Merci Richard Place en direct de Londres. Face aux catastrophes climatiques extrêmes qui se multiplient après des années marquées par les constats accablants de la science soulignant l'urgence à agir, les dirigeants de la planète profiteront-ils cette semaine du 5e anniversaire de l'accord de Paris pour offrir un second souffle au traité. Ce dernier, signé le 12 décembre 2015 sous les vivats des délégations de 195 pays, en aurait bien besoin tant l'enthousiasme est aujourd'hui retombé. À l'évidence, le monde n'est toujours pas à la hauteur du défi climatique. Température record, banquise en berne, sécheresse à répétition, ouragan en série partout. Les effets du réchauffement semblent de plus en plus visibles. Alors, dans ces conditions difficiles, évidemment, ce mardi de célébrer dans la joie la journée mondiale d'action contre le climat, sans compter, Marie Viennot, que si la pandémie avait, c'est vrai, un temps suscité l'espoir de construire le monde d'après, il ressort aujourd'hui de tous les plans massifs annoncés pour relever les économies de la crise sanitaire qu'ils engagent pour l'essentiel le monde de demain sur un chemin plus gris que vert.
14 instituts de recherche ont uni leurs forces et leurs capacités de collecte de données pour analyser les plans de soutien et de relance annoncés depuis le début de la crise sanitaire dans le monde. Chaque annonce de milliards en faveur de tel ou tel secteur ou entreprise, de réduction de fiscalité, de promesses d'investissement est répertoriée par ces chercheurs et classée en fonction de l'énergie qu'elle promeut au final. Énergie fossile, énergie propre ou autre. Le projet s'appelle Energy Policy Tracker et selon son dernier relevé, celui du 2 décembre, 240 milliards de dollars d'argent public vont aller vers les énergies fossiles et 157 milliards pour les énergies propres. Ça, c'est uniquement pour les pays du G20 qui pèsent 80% des émissions de gaz à effet de serre et dont la réorientation de l'économie est cruciale pour l'avenir de la planète. Que les énergies fossiles soient plus subventionnées que les énergies vertes, c'était le cas avant la crise du Covid. Ce qu'il y a de tragique dans la situation actuelle, expliquent ces chercheurs, c'est que les montants mis sur la table pour ces plans de relance sont colossaux et qu'ils vont façonner l'économie mondiale pour de longues années, pas dans le bon sens du coup. À peine un tiers des aides publiques accordées en ce moment aux entreprises sont conditionnées à des objectifs environnementaux. Il y a donc en outre une occasion ratée d'encourager le passage à une économie moins carbonée grâce à tous ces milliards d'argent public.
Direction l'Inde à présent, où des dizaines de milliers d'agriculteurs qui campaient depuis fin novembre déjà à la périphérie de la capitale, New Delhi, ont appelé ce mardi à une journée de grève générale à travers tout le pays. Cette fois-ci, il réclame l'abrogation d'une toute nouvelle législation libéralisant les marchés agricoles. Les précisions de notre correspondant Sébastien Farcy.
Les vendeurs de lait, les marchands de légumes, certains transporteurs routiers ou les chauffeurs de taxi ont arrêté le travail aujourd'hui en soutien aux agriculteurs. Le mouvement des paysans gagne donc en popularité, alors que les partis d'opposition, eux, s'engouffrent dans cette brèche pour contester le pouvoir autoritaire de Narendra Modi. Pendant ce temps, des milliers d'agriculteurs continuent à affluer aux portes de New Delhi pour remplacer ceux qui retournent sur leurs terres. Surinder Singh, qui possède 20 hectares de riz et de blé, est arrivé ce matin du Punjab.
Si nous laissons le gouvernement faire, les entreprises privées vont nous prendre nos terres. Nous serons des ouvriers sur les terres que nous possédions et nous ne pourrons même plus manger 3 repas par jour. Modi ne réalise pas que si l'agriculture est détruite, c'est la nation qui est détruite.
Ce paysan est venu avec son fils de 25 ans, Punjab, qui est étudiant à l'université.
Je voulais venir pour soutenir tous nos paysans qui dorment dehors, dans les tracteurs et les remorques, alors qu'il fait si froid. C'est un moment historique qui est très pacifique et je pourrais dire que j'en faisais partie.
Le gouvernement rencontrera les agriculteurs demain pour un 6e round de négociations.
Reporter sans frontières a désigné ses lauréats pour l'année 2020 et le prix du courage a été décerné ce matin à la journaliste russe Elena Milashina, dont le travail d'enquête sur les atteintes aux droits de l'homme en Tchétchénie s'inscrit dans la continuité directe de celui de son aîné Anna Politkovskaya, assassinée en 2006. Son portrait est signé Claude Brouillot.
Yelena Milashina est aujourd'hui même en Tchétchénie, son terrain d'enquête principal. La journaliste de Novaya Gazeta est sur place pour assurer la couverture du procès d'un opposant local kidnappé, torturé et qui fait l'objet d'une accusation criminelle pour le moins douteuse. En début d'année, au cours d'un autre reportage dans cette république musulmane du Caucase Nord, Yelena Milashina avait été agressée à Grozny. Aujourd'hui, avec le recul, la journaliste de Novaya Gazeta a le sentiment que plus elle avance dans le temps, plus enquêter vraiment en Tchétchénie devient difficile et dangereux.
Pendant toutes ces années où j'ai travaillé, plusieurs de mes collègues ont été tués en Tchétchénie. Il y a toujours eu des menaces, y compris contre moi. Quand je vais en Tchétchénie, ce n'est pas pour survoler les situations, mais pour travailler en profondeur, et c'est ce qui dérange le pouvoir. À cause de ça, à chaque déplacement, les risques deviennent un peu plus grands.
Occasionnellement, le Kremlin est questionné sur les risques encourus par des journalistes russes qui se rendent courageusement en Tchétchénie pour travailler sur les dérives autoritaires du pouvoir tenu par Ramzan Kadyrov. La plupart du temps, les réponses oscillent entre le déni et les réactions simplement jugé un peu trop émotionnel de la part de l'homme fort de Grozny.
Aux commandes de son fameux Bell X1, il avait fait son entrée dans l'histoire en franchissant pour la première fois le mur du son. C'était en 1947, la légende américaine de l'aviation Charlie Chuck Yeager s'est définitivement envolé. Hier, il était âgé de 97 ans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent couvert et parfois même pluvieux. Il neigera sur les reliefs. Quant aux températures, elles afficheront entre 3 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.